aujourd'hui profération et souvenir, ce souvenir d'Artaud le Momo avec Jérôme Trieur et ce souvenir du père avec Charles Penquin.
Compagnie des poètes, par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h.
Il y avait Colette Thomas. Là, ça, Colette Thomas, c'était une petite merveille. Elle avait une petite jupe plissée, écossaise, un chandail blanc. Elle était blonde. Et elle avait l'air vraiment d'une petite jeune fille. Quoique on pouvait lire dans son regard toutes les notions. Mais quand elle lisait Artaud, alors ça, c'était sublime. Pour moi, c'était sublime.
Poèmes qui creusent le langage et le souvenir du père. Ça s'appelle Père ancien, c'est signé Charles Penquin aux éditions POL. Et 18 mois, ou 18 derniers mois, disons, dans les pas d'Antonin Artaud. C'était pour Artaud le Momo, documentaire signé Gérard Mordillat et Jérôme Prieur en 1993. Et qui trouve aujourd'hui une forme livresque et filmique aux éditions Le Temps qu'il fait. Jérôme Prieur, Charles Penquin, bonjour et bienvenue à tous les deux. Je ne sais pas si vous m'entendez bien.
Bonjour.
Alors, en tendant bien l'oreille, on entendait à l'instant comme pris dans la nappe du titre de Christophe, qu'on écoutait en tout début d'émission, une voix empruntée à votre documentaire, Jérôme Prieur. C'est la voix de la photographe Denise Collomb, parlant de Colette Thomas, qui est cette comète des derniers mois d'Antonin Artaud. Quand elle lisait Artaud, c'était sublime. Pour moi, c'était sublime, dit Denise Collomb. C'était quelque chose d'absolument bouleversant, c'était presque intolérable, dit Marthe Robert dans votre film. Colette Thomas, dont les témoins du documentaire se souviennent, 10 ans Artaud, le 7 juin 1946 au théâtre Sarah Bernhardt. Colette Thomas, que vous irez voir d'ailleurs dans le sud, de Jérôme Prieur, avec Gérard Mordillat, mais qui ne parlera pas. Oui. Qu'est-ce que ce personnage-là dit du dernier Artaud dans le film ? Même absente, quelle place est-ce qu'elle y occupe ? Parce qu'elle est assez présente par son absence.
Ah oui, elle est très présente, mais moi je me souviens que je connaissais déjà Henri Thomas et que j'avais un peu des scrupules à lui parler de Colette Thomas.
Qui était sa première épouse.
Comme il dit, ma première épouse, je ne suis pourtant pas barbe bleue, ajoutait-il malicieusement. Mais il en a parlé très volontiers et ce qui était très frappant, c'est que beaucoup d'amis, de proches d'Artaud, de toute cette bande de jeunes gens qui l'ont accueilli à son retour de Rodez à Paris en 46, tous et toutes, inévitablement, parlaient de Colette Thomas, enfin Colette Gibert, qui était une élève de Merleau-Ponty, de Sartre, et une actrice qui avait travaillé avec Dulin, avec Jouvet, et qui s'est laissée, emportée par quelque chose qui la dépassait, qui tenait à sa fascination, à son adoration pour Artaud, qui s'en est sûrement servi comme on se sert d'un instrument, enfin comme d'un instrument de musique. Et je pense que ça a été l'une des victimes, mais l'une des rares victimes d'Artaud, parce que c'est ça qui est assez surprenant quand on a rencontré toutes ces personnes, c'est de voir comment chacun avait une relation, un lien privilégié, personnel, singulier avec Antonin Artaud.
Vous m'aviez demandé d'ailleurs, Jérôme Prieur, en préparant l'émission, de faire entendre un extrait du film de fiction, cette fois, de Gérard Mordillat, en compagnie d'Antonin Artaud, dans une scène où Artaud, interprété par Samy Frey, fait répéter le roi Tulé de Nerval à Colette Thomas, interprété par Charlotte Valandret, et ça faisait ça.
Il est...
Allez, 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 Colette !
Il était un roi de Tulé ! À qui son amant tu fidèle ? Les gars comme souvenir d'elle.
D'elle, d'elle.
Les gars comme souvenir d'elle.
D'elle.
Les gars comme souvenir d'elle.
Faites trisser le son. Il faut faire vibrer le son jusqu'à ce que la fibre de vie grince. La boule à cri.
Il était.
Recommencez. Recommencez.
Il était un roi de Tulé. À qui son amant est fidèle? À qui son amant est fidèle? Les gars comme souvenir.
C'était pour Colette Thomas, c'était pour Nerval, c'était pour la boule à cri, c'était pour Artaud que vous souhaitiez faire entendre cet extrait-là, précisément, Jérôme Prieur.
C'était pour montrer comment l'enquête, le travail documentaire a enrichi et a permis, dans une certaine mesure, le film de fiction, comment il a permis d'être dans les marques les plus justes possibles. Bien sûr, on peut pas les reconstituer avec exactitude, mais de manière à être le plus fidèle possible à ce qui a pu se passer. Et donc, faire ce film documentaire avec les vivants, quand on a tourné ce film, ça permettait de retrouver les morts qui sont les personnages principaux du film de fiction, qui sont Artaud, qui sont Jacques Prevel, ceux que on ne pouvait pas filmer et rencontrer dans le film documentaire. Donc c'est ce va-et-vient entre le documentaire et la fiction qui a été l'un des cadeaux extraordinaires de ce film, de la véritable histoire d'Artaud Momo.
Alors justement, le film de fiction dont vous parlez, Jérôme Prieur, est donc un film adapté du journal du poète Jacques Prevel en compagnie d'Antonin Artaud. Jacques Prevel qui est sans doute l'autre absent visible du documentaire, à propos duquel vous dites l'avoir très bien pas connu, et qui meurt à 35 ans, 3 ans après Artaud. Partir de Prevel, choisir Prevel pour dire Artaud, c'était choisir quel Artaud ? Pour vous deux, pour Mordillat, je ne vais pas faire parler à votre place, mais pour vous surtout. Ah, peut-être que vous ne m'entendez plus.
Oui.
Si ?
Là, je vous entends. Excusez-moi.
Formidable.
Oui.
De partir de Prevel, c'était, c'était choisir un Artaud en particulier ?
Ah oui. Écoutez, faut que je vous dise comment ça s'est présenté. Il y a 30 ans, ça me fait un drôle d'effet de dire il y a 30 ans, en 1990, et un beau jour, Gérard Mordillat, qui était un ami de travail, me dit, est-ce que tu aurais pas envie d'adapter le journal de Jacques Prevel, le journal en compagnie d'Antonin Artaud, est-ce que tu serais partant? Et donc j'étais très surpris parce que je découvrais que Artaud comptait pour lui, comme pour moi, j'avais écrit déjà un peu modestement sur Antonin Artaud. Et l'autre surprise que me provoquait cette demande de Gérard Mordillat, c'était de s'intéresser à la biographie d'Artaud et de la biographie d'Artaud au moment où Artaud revient détruit, je l'imaginais, à Paris, quoi, juste après la guerre, en 46. Et donc, et en plus, troisième surprise, si vous voulez, j'ai été élevé dans le rejet de cette association, de ce couple contre nature, la vie et l'œuvre, et donc la vie d'Artaud ne m'intéressait pas tellement. J'avais lu Artaud autant qu'on peut le lire ou savoir le lire, mais voilà. Et donc, ce journal de Jacques Prevel, je le connaissais comme ça de réputation. J'avais lu quelques pages de ce journal, mais je l'avais jamais lu. Je n'avais jamais eu envie de le lire. Et je l'ai lu, l'édition de Bernard Noël chez Flammarion, édité par Polotchakovsky Laurence. Je l'ai lu. Et j'ai été absolument sidéré par la qualité de ce journal, parce que c'est un journal d'un poète qui rencontre un autre poète, un jeune poète inconnu qui en rencontre un autre, et que ce journal est sans concession, quoi, est très, il y a une espèce de dureté, de sécheresse. Jacques Prevel, qui est donc un poète, raconte jour après jour son attente d'Artaud, et puis ses rencontres, puis ses rendez-vous, puis ses discussions, et il nous donne un portrait d'Artaud très intéressant parce que très singulier. Je pense que il y a, enfin, le film documentaire le montre, il y a plusieurs Artauds. Et donc, il suscitait encore, au moment où on a fait le film, des polémiques entre des polémiques, des jalousies. C'était un noyau de feu qui était très, très, très brûlant. Et donc, les amis d'Artaud avaient le plus grand mal à s'entendre entre eux. Et ce qu'a permis le journal de Jacques Prevel, absent mais combien présent finalement, en filigrane dans le film documentaire, c'est d'approcher Artaud sur les traces de quelqu'un, d'avoir un regard indirect sur Artaud, parce que faire un film sur Artaud, les bras vous en tombent, enfin c'est tellement immense, enfin comme d'autres grands écrivains, c'est tellement immense. Et là, on avait le Artaud d'un évangéliste particulier, d'un scribe particulier, et donc ça rendait l'aventure possible, et ça a rendu une autre aventure possible, celle du documentaire.
Alors, évangéliste, oui, c'est peut-être le mot qui convient. Il écrit par exemple dans son journal « Je ne pouvais croire à sa fin si proche, et pourtant je me demandais s'il vivrait. Les soirées avec lui avaient un goût âcre et violent. L'intensité de sa vie me faisait entrer dans un absolu, le sien. J'étais pris dans son tourbillon, je le suivais comme un somnambule. Et quand je le quittais à Jussieu ou quelque part dans la nuit, je revenais ivre, étrangement obsédé par ses paroles, par les chants qu'il psalmodiait, par son visage unique, par son regard poignant. Je marchais dans Paris sans penser, ou plutôt je ne pensais qu'à lui. La vie était transformée, illuminée. Il y avait Antonin Artaud, je vivais. »
Ah, j'aime beaucoup cette...
ce passage.
Cette page. Ah, j'aime beaucoup. J'aime journal. Follement cette page, enfin, que je trouve bouleversante, absolument bouleversante. Merci de l'avoir lu.
Ah bah, je vous en prie. Donc, on comprend bien qu'il y a quelque chose comme une illumination, en tout cas une révélation, Artaud. Ah oui. Et à entendre tous les témoins du film, que vous interrogez d'ailleurs tous à cette époque-là, en 93, sur leur première rencontre, parce qu'il y a toujours une rencontre avec Artaud, quelque chose comme ça, de l'ordre de la révélation, de la première fois. Je pense en particulier à Annie Bénard qui raconte comment, quand elle avait 15 ans et demi, elle le rencontre sous un bec de gaz à Montparnasse ou Marthe Robert, alors qu'elle lisait les essais de Montaigne au Dôme. Charles Penquin, je me demandais, vous qui dites souvent n'avoir pu lire que de la poésie pendant votre adolescence, et j'imagine que ça continue, vous avez commencé par Apollinaire, mais très rapidement avez poursuivi avec Artaud. Artaud, c'était facile pour vous, dites-vous, vous compreniez tout. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous, Charles Penquin, si vous m'entendez?
Oui, je vous entends. Oui, en fait, Antonin Artaud, oui, c'était vers l'âge de 17-18 ans que je découvrais dans une médiathèque à Cambrai, où j'habitais, et j'étais marqué par ces textes, Artolomomo, par exemple, des textes comme ça, où je comprenais pas tout, et surtout les glossolalies, tout ça, qui m'étonnaient, et j'avais l'impression vraiment que ce que je comprenais, en fait, c'était... C'était une manière autre de voir la littérature, la lecture. J'arrivais à lire, en fait, parce qu'il y avait quelque chose qui se dressait sur la page. Et donc, j'étais marqué par ça, parce qu'en fait, il y avait quelque part chez moi une impossibilité de lire de la littérature, enfin des romans, ou voilà. Et j'avais très peu de poésie, et cette poésie-là d'Artaud m'a vraiment complètement marqué, m'a marqué à vie, en fait.
Qu'est-ce qui résistait dans le roman ou dans les autres formes de littérature que celle de la poésie?
Peut-être une façon d'utiliser le langage, voilà, avec une histoire qui se déroule petit à petit, et que là on arrivait de, comme disait Ponge d'ailleurs, de plein pied, quoi, arriver de plein pied dans le poème, c'était ça. On arrivait de plein pied dans quelque chose qu'on pouvait comprendre et prendre. Enfin, il y avait quelque chose de physique chez Artaud, très physique, que j'avais jamais connu, et qui faisait que j'arrivais à lire cette physicalité. cette chose, ces choses qui se dressaient, qui se hérissaient dans la page.
Alors dans le documentaire, hein, La véritable histoire d'Artolomomo, on entend donc tous ces témoins qui sont face caméra dans un studio, qui viennent à raconter leurs souvenirs, leur Arto. Et effectivement, parfois ça frotte beaucoup même hein, à lire les carnets de tournage de Gérard Mordillat à la fin du livre. Paul Thévenin, qui le rencontre pour la première fois donc à la sortie de l'internement à Rodez, à Paris, qui passera après toute sa vie, après sa mort, à publier ses œuvres complètes. Paul Thévenin, dans le film, à un moment donné, parle de son statut à elle, hein, dans le documentaire. Elle dit à un moment dans le film, Jérôme Prière, « Je pense que tous les témoins sont des faux témoins. C'est pour ça que vous me voyez si mal à l'aise, parce que j'ai l'impression que je peux aussi être un faux témoin. J'aurais horreur de ça, ça me déplairait beaucoup. » Comment est-ce qu'une telle parole résonne pour le documentariste que vous êtes, Jérôme Prière? C'est précisément ce que vous attendez?
Ah bah c'est formidable, oui, quelqu'un qui dit ça. Et d'ailleurs, en le réécoutant, je me suis rendu compte, un, qu'à l'époque, j'étais plus, enfin, et Gérard Mordillat aussi, plus intrusif que nous ne l'aurions été depuis. C'est-à-dire que, de temps en temps, on vient au secours de ceux qui parlent, alors que la grande force, je crois, du documentaire, du cinéma documentaire, c'est de laisser la parole affleurer, se révéler, et laisser celui qui filme se débrouiller avec lui-même, avec ce qu'il veut dire et pas dire, quoi. Et je me souviens que Paul Thévenin, qu'il a fallu convaincre, hein, parce qu'elle ne voulait d'abord qu'on ne filme que ses mains. Elle considérait qu'elle avait rien à dire ou que ce qu'elle avait à dire n'était pas personnel et que on ne devait pas la voir.
Ou beaucoup de mal des autres.
Oui, Paul, oui, bien sûr, d'accord. Mais bon, finalement, on est arrivé à nos fins. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est que chacun était un témoin, mais en même temps, chacun, c'est ça l'addition des points de vue. Chacun est forcément un faux témoin. Et nous serions partie prenante physiquement de cette histoire, nous serions aussi des faux témoins, nous sommes toujours des faux témoins, mais c'est cette circulation entre la mémoire et l'histoire, la fiction et la vérité qui est passionnante. Chacun a son Arto, chacun a son récit d'Arto, et c'est cette contamination, cette comparaison, cette conflagration qui constitue ce théâtre de la parole que nous avons voulu faire en réalisant ce film auquel nous nous attendions pas du tout. D'ailleurs, ça nous est venu comme une illumination, hein, nous aussi. Prevel a été illuminé. Nous, on n'a pas été illuminé directement par cette déflagration Arto, mais on a été illuminé en allant rencontrer l'un des témoins de cette histoire, la femme de Jacques Prevel, Rolande Prevel, très surpris qu'elle soit encore vivante, très surpris ensuite d'apprendre que l'autre femme de Jacques Prevel, Jeannie de Ruy, était aussi vivante, mais surtout en rencontrant Rolande Prevel, l'épouse dans les années 90, là en 91, 92, en rencontrant Rolande Prevel, on s'est rendu compte que la queue de la comète était toujours là, que cette bande de jeunes gens était toujours apte à témoigner pour peu qu'on les convainque de parler, parce que on parle de témoins comme s'ils attendent une caméra ou un micro pour parler. Mais pour la plupart, c'était leur secret, c'était quelque chose de brûlant, mais de personnel, dont ils ne voulaient pas parler. Et donc, il a fallu chacun les convaincre que le moment, peut-être, était venu de parler.
Alors, le documentaire, justement, sort en 93. Hein, 27 oui. ans après, tous les témoins interrogés ont disparu. Henri Thomas, Paul Thévenin, presque tous, oui. pardon, Marthe oui. Robert. Publié oui. aujourd'hui sa retranscription...
Paul Thévenin est morte peu de temps après. Hein.
Peu de temps après le Paul tournage.
Oui, c'est ça. Absolument. Oui. Et heureusement qu'on a été là, parce que faire un film sur Arto à ce moment-là, enfin, à la fin du XXe siècle... Sans elle, ça aurait été impensable. Ça aurait été, voilà.
Alors justement, vous disiez, c'était il y a 30 ans, il y a presque 30 ans, oui. publié aujourd'hui oui. sa retranscription, alors augmentée de vos textes hein, et de ceux de Gérard Mordillat, oui. c'est dire que le documentaire est devenu autre chose aujourd'hui, maintenant que la plupart de ses témoins ont disparu?
Ah ben forcément, il a une qualité testamentaire, hein, évidemment, très, très grande, c'est oui, bien sûr, bien sûr. Mais ce qu'il y a, c'est que le film avait été édité par par Arte Édition dans une mauvaise copie. Et donc là, on a fait tout un travail de restauration. Le film était introuvable. Donc tout ça fait partie de la vie d'un film, que les films ne meurent pas. Ils ne meurent d'autant moins qu'on s'en occupe et qu'à l'intérieur... Enfin, ce film est un tombeau d'Artaud, d'un Artaud vivant, hein, enfin, je crois, mais aussi d'un... Et le film est un tombeau de tous ceux qui y ont participé, Henri Thomas, Paul Thévenin, Henri Pichette, puis des Jackie Adamoff, puis des personnages beaucoup plus modestes, mais qui ont chacun leur relation vivante, vive, aiguë avec Antonin Artaud. Il y a cette petite fille... la fille de Paul Thévenin, Domnine Miliex, qui parle d'Artaud, mais d'un Artaud dont elle a le souvenir comme une enfant, elle a le souvenir d'un adulte. Donc c'est un autre portrait, c'est un portrait d'un homme qui a été très mythifié par la tradition, qui était pétrifié dans sa douleur, dans sa souffrance, qui revient comme des camps en 46 à Paris, mais c'est aussi quelqu'un, beaucoup nous l'ont dit, qui était très soucieux des autres, de ce qu'ils avaient mangé, s'ils avaient faim, s'ils avaient froid, et donc avoir les souvenirs d'une enfant comme Domnine Miliex ou d'une très jeune femme comme Annie Bénard, ça donne un tout autre regard que celui qu'on aurait tendance à avoir aujourd'hui vu de très loin sur ce personnage emblématique du théâtre moderne.
Les malades et les médecins. La maladie est un état. La santé n'en est qu'un autre. Plus mort, je veux dire plus lâche et plus mesquin. Pas de malade qui n'est grandi, pas de bien portant qui n'est un jour trahi pour n'avoir jamais voulu être malade comme tel médecin que j'ai subi. J'ai été malade toute ma vie et je ne demande qu'à continuer. Car les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de la bonne santé suffit. Car mon être est beau, mais affreux. Et il n'est beau que parce il est affreux. Guérir une maladie est un crime.
La voix d'Artaud, je crois que c'est un enregistrement du 8 juin 46, hein, c'était pour l'émission du Club d'essai de la radiodiffusion française, et puis qui a été diffusée le lendemain. Le film court donc des derniers mois de l'internement d'Artaud à Rodez, de la mobilisation d'Adamoff, de Marthe Robert, de Jean Paulin pour leur faire sortir en mai 46, jusqu'à sa mort en mars 48 à Ivry, chez le docteur Delmas. Donc c'est à peu près Delmas, 18 mois en tout et pour tout. Et en revenant sur la genèse de ce film, Jérôme Prieur, vous revenez sur tout votre parcours de documentariste, en tandem notamment avec Mordillat, d'abord parce que c'est votre première collaboration, et ensuite parce qu'aujourd'hui, a posteriori, vous y voyez le prototype de Corpus Christi, la série documentaire que vous avez co-signée à partir de 1997 avec Mordillat, et qui présentait, alors je fais très très vite, l'état mondial des recherches sur Jésus de Nazareth. En quoi est-ce que ce travail sur Artaud ouvrait la voie, Jérôme Prieur?
Eh bien, l'art du portrait. Ce film sur Artaud, comme nos films ensuite ultérieurs sur le Nouveau Testament, sur les évangiles, sur l'origine du christianisme, c'est, en dehors de ce que cela raconte, formellement un art du portrait. On voit là des gens qui s'expriment en leur nom propre, qui ne sont pas des porte-paroles, mais qui sont des acteurs d'eux-mêmes. Et donc, ce qui est magnifique dans le travail documentaire, c'est de pouvoir être au plus près des gens, mais sans solliciter, sans, sans chercher à forcer leurs paroles. On est là devant eux, on les filme du mieux qu'on peut, avec les outils les plus sophistiqués du cinéma, avec les meilleurs techniciens, le meilleur chef opérateur, et on les filme comme nos vedettes, si vous voulez. Et ainsi crée-t-on ce que j'ai appelé tout à l'heure un théâtre de la parole. C'est-à-dire que il n'y a pas de vérité sur Artaud ou sur les origines du christianisme. Il y a tout un ensemble de points de vue, de récits, qu'on donne aux spectateurs le temps d'écouter, de décrypter, parce que le sens se déduit de l'addition des divers points de l'addition des différents points de vue, mais aussi du regard critique qu'on peut exercer sur chacun des narrateurs, chacune des personnes qui parlent. On voit bien là dans le film sur Artaud, dans la véritable histoire d'Artaud le Moumou, que personne n'a le dernier mot, que personne ne peut avoir détenir la vérité, que la vérité de Paul Thévenin n'est pas la vérité de Marthe Robert. Et d'ailleurs, petite anecdote, quand on a fini le film, on s'est évidemment voué à le leur montrer, mais il y avait des compagnonnages qui étaient impossibles. Il a fallu montrer le film séparément à Paul Thévenin et à Marthe Robert, enfin, parce que c'était quelque chose qui était trop intime pour l'une et l'autre. Et donc, je pense que tout le film, il porte ça, il porte cette empreinte, c'est quelque chose de très incarné, finalement. Même si on parle d'absent, vous avez évoqué Artaud qui était absent, ou Jacques Prouvel qui était absent, dans l'histoire du christianisme, évidemment, les absents sont là. Mais aujourd'hui, cette parole, elle est vivante à travers d'autres corps, d'autres langues, d'autres êtres vivants. Et donc, c'est cet écho qu'on arrive à capter par le documentaire, par le cinéma documentaire.
Alors, au-delà, Jérôme Prieur, peut-être si on vous entend bien, d'une forme ou d'une méthode mise en place avec ce premier documentaire. Alors, il y a bien sûr cette figure christique, hein, quasiment, qui est Artaud.
Oui,
on ne peut pas ne pas y penser. En tout cas, à écouter certains des témoins, pas tous, hein, mais certains des témoins du film. Sans doute qu'on peut rappeler aussi que dans une de ses conférences au Vieux Colombier, hein, Artaud suggérait qu'il y a 2000 ans, il était en Israël et qu'il avait été crucifié. Henri Thomas dit d'ailleurs,
oui,
tirez-en les conséquences. Il expliquait que Artaud sans doute voulait mourir devant le public. S'il fallait faire un lien, alors même si même si c'est peut-être un petit peu lourd, hein, mais peut-être il serait davantage au sens révolutionnaire du terme, c'est-à-dire que pour vous, Jérôme Prieur, il y aurait un avant et un après Artaud.
Pour moi, personnellement,
oui.
Comme devant l'histoire de la littérature.
Ah,
et du théâtre.
Pour vous, pour l'histoire,
pour moi,
comme vous voulez.
Comme je veux. Ah non, mais pour moi, oui, indéniablement, oui. Non, comme je vous ai dit, faire ce film, c'était un cadeau, puisque on est allé voir Madame Prouvel pour obtenir son autorisation pour utiliser pour adapter le journal de son mari, et on ne pensait pas du tout à aller plus loin. On venait là pour un but précis, et quand on a compris que pour cette femme, Artaud venait de quitter la pièce dans laquelle elle vivait. Enfin, la pièce, elle n'était plus rue des Beaux-Arts, comme dans les années 46-47. Mais quand on a compris ça, on est sorti de son appartement à Alfortville, si je me souviens bien, un modeste HLM, et on s'est assis tous les deux sur une marche en béton de ce grand ensemble, et on s'est regardé, et d'un même cri, on s'est dit, mais on est idiot, quoi. On a failli passer à côté de quelque chose d'essentiel. Il se trouve qu'on connaissait l'un et l'autre un certain nombre de ses amis d'Artaud, mais qu'on n'avait jamais, jamais imaginé une seconde faire ce film et les interroger sur leur amitié pour Artaud. Et donc, à partir de ce moment-là, toute la machine s'est mise en branle et on est allé convaincre les uns les autres et on a fait ce film documentaire avant de faire le film de fiction qu'on était en train d'écrire et que Gérard Mordia a réalisé un petit peu plus tard.
Oui, alors ceux dont vous parlez, hein, c'est ceux que Annie Besnard appelle les antonistes de la dernière heure,
et
avec
une
petite perfidie. Évidemment, revenir au visage, à la parole, à l'instant, c'est aussi l'ambition de ce documentaire, ou en tout cas une des ambitions du film. Je me demandais comment s'était imposé le choix du titre, La véritable histoire d'Arto Le Momo, qui évidemment fait référence à Arto Le Momo. Est-ce que ce titre-là est arrivé tout de suite? Est-ce qu'il vous a indiqué quelque chose? Est-ce qu'il vous a guidé? Ou est-ce qu'il est venu après coup?
Il est venu en effet après coup. Il est venu après coup. Ça s'appelait le titre de travail, en vue d'un film d'une heure d'ailleurs, pas moins mais pas plus. C'était Le retour d'Arto. Ce qui était un peu, ce qui n'était pas faux du tout, ce qui était un peu simpliste, voilà. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que chacun avait sa véritable histoire, donc le titre qui s'imposait, c'était celui-là, La véritable histoire d'Arto Le Momo, sachant qu'il y a évidemment du paradoxe dans ce titre, il n'y a pas de, c'est pas l'histoire vraie d'Arto, c'est la manière dont un personnage devient un personnage de fiction, de légende, mais pour ceux-mêmes qui l'ont vécu, qui ont été avec lui. Enfin, c'est pas de la parole au deuxième degré. C'est vraiment, chacun parle depuis sa place, en fonction de la connaissance et de l'expérience qu'il a eue d'Antonin Artaud.
Vous dites qu'on ne lit pas Arto dans l'introduction, que vous co-signez avec Gérard Mandilla, qu'on ne lit pas Arto, ça sonne évidemment comme un regret, c'est-à-dire on le lit moins qu'on ne le commente, qu'on ne le cite, qu'on ne l'envisage. Vous parlez aussi évidemment de cette scansion, de la boule à cri, de ces aigus fameux, de la profération. Donc Arto, c'est évidemment plusieurs voix. Est-ce que vous seriez d'accord avec Henri Thomas qui explique qu'on retient moins au fond ce qu'il dit, ce que Arto dit, que l'impression qu'il fait? Est-ce que c'était ce rapport-là que vous aviez vous aussi avec Arto, Jérôme Prieur?
Pour ceux qui l'ont connu à ce moment-là, certainement. Certainement, c'est ça qui est très frappant, quoi. Que ceux qui l'ont connu n'étaient pas intimidés par cet homme. Ceux qui l'ont bien connu n'étaient pas intimidés. Il y a un témoignage de ça qui est extraordinaire, qui est dans le film, que sont les photos prises par Georges Pastier, qui était un opérateur de cinéma et qui a été le frère de Paul Thévenin, par ailleurs. Et il a pris plusieurs rouleaux de photos. Et Dieu sait que les photos de Denis Colomb, vous l'avez cité tout à l'heure, on l'a entendu. Dieu sait que ces photos sont très belles, mais elles nous montrent un Arto ravagé, un Arto oiseau souffrant comme ça. Et les photos prises en même temps, hein, vraiment dans ce même laps de temps intensément créatif des années 46-47. Ces photos prises par Loulou Pastier, elles montrent un homme dans l'intimité, dans la familiarité de ses proches, qui est très différent des photos de Denis Colomb. Donc ça montre bien que quelque chose de sa façon d'être au monde s'incarne différemment. On citait tout à l'heure, vous citiez à l'instant la conférence du Vieux Colombier en janvier 47, mais on peut se dire ça aussi pour les émissions de radio. Ce qui est très frappant quand on interroge ceux qui ont été les témoins, vrais ou faux d'ailleurs, c'est que Arto était complètement dans le langage, pour reprendre l'expression d'Henri Thomas que j'aime beaucoup. Il était passé au langage, mais qu'en même temps, il était capable de couper net. Gervais Marchal, qui raconte la séance d'enregistrement pour le Club d'essai, raconte que Arto fait ses imprécations, ses cris et ses modulations, et puis l'émission s'arrête et il redevient un monsieur Arto, très digne, voilà. De même que André Bern-Geoffroy raconte au Vieux Colombier que quelqu'un a interrompu Arto et qu'Arto s'est tourné vers lui en sortant de son rôle très froidement et lui a dit « Monsieur, qui vous demande des conseils ?» Enfin voilà, il y a cette force, cette maîtrise incroyable chez Arto.
cette énergie hein, dont ils parlent tous,
dans la deuxième
partie, cette énergie qui est le langage, explique Henri Thomas.
Oui. Moi, je ne pensais pas, franchement, que le Artaud de la dernière période était aussi une telle boule d'énergie. Enfin, mais penser qu'il y a la plus grande époque des dessins, qu'il y a ces trois émissions de radio, qu'il y a le Van Gogh, qu'il y a Artaud le Momo, enfin, que c'est une période d'intense création de la part d'un homme qui est au bout de sa vie et qui est en train de mourir et on ne le sait pas, enfin, et on ne veut pas le soigner pour le cancer qu'il a et qui sera diagnostiqué très, très, très tardivement, et que cet homme détruit est un foyer, un foyer d'intensité, mais qu'il meurt, il a 50 ans, 51 ans, quoi, c'est incroyable.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farid.
Et toujours sur France Culture avec Jérôme Prieur, pour aller presque tout droit d'Artaud à Charles Penquin, de la trace de l'empreinte d'Artaud à celle du père, un détour par Marguerite Duras.
C'est étrange dans l'écriture, le parallélisme avec la vie. On a ce qu'on écrit qui est une vie qui ne se voit pas. Et puis il y a cette autre vie qui se voit. Pourquoi ce besoin d'avoir deux vies? Cette deuxième vie, parfois elle apparaît en clair dans l'existence. Par exemple, quand j'ai vu cette vieille américaine, ivre, droguée, et le couple qu'elle formait avec, disons, le capitaine de son bateau, de sa vie. Quand je les ai vus, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que si je retrouve le manuscrit que j'ai perdu, je vais l'écrire, cette histoire. Quand j'ai vu ces gens-là, je me suis dit, il faut écrire ça. Je ne me suis pas aperçu tout de suite que c'était la même histoire. Comme cette femme, j'étais alcoolique. Comme elle, j'étais vieille. Et comme elle, j'avais un amant, beaucoup plus jeune que moi. Et comme elle, j'étais désespérée. Vous ne pouvez pas la voir à partir de ce que je dis. Si vous pouviez la voir, cette scène, vous, les lecteurs, je ne ferais pas ce livre. Elle est cachée.
Pourquoi ce besoin d'avoir deux vies, demande Marguerite Duras au micro d'Alain Weinstein en 1986. C'était sur France Culture au moment de la parution de Yeux bleus, cheveux noirs. Charles Penquin, vous vous reconnaissez dans cette question? Qu'est-ce qu'elle mobilise pour vous, pour que vous me demandiez de faire entendre cet extrait précisément?
En fait, c'était parce qu'en ce moment, je suis plongé dans Marguerite Duras et...
Faites bien.
Et j'ai lu Un barrage contre le Pacifique et puis ensuite Les cahiers de la guerre. Et là, dans ce passage-là, par exemple, elle parle du manuscrit perdu, des lecteurs, de quelque chose qui est caché, en fait, chez elle. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Enfin, c'était aussi la voix de Marguerite Duras. Mais dans ce qu'elle dit, dans ses cahiers, je trouve ça très intéressant, notamment par rapport à la poésie, par exemple... quand elle parle de sa famille avec sa mère et son frère, des insultes. Je ne sais pas si je peux lire un passage, par exemple.
Bien sûr, avec plaisir.
Oui, par exemple, où elle dit, elle parle des insultes qui s'échangent avec la famille. Ce n'est plus que ça, en fait, comme discussion. Où elle dit, le « tu me fais chier » de mon frère aîné voulait dire pour nous que tout le faisait chier, et qu'il se trouvait dans un état que dans un autre milieu, il est convenu d'appeler le désespoir. Aussi, n'était-ce pas sans respect et sans sérieux que nous évitions, dans ces moments-là, de lui adresser la parole. Les injures, c'était notre poésie. Elles en avaient le caractère le plus vrai, le plus indéniable. D'abord, leur gratuité, qui n'était pas hasardeuse, mais qui tombait juste, et nous illuminait de colère, et nous inondait de révélations de toutes sortes. Ta maison est une chérie, disait mon frère à ma mère, une vraie chérie, et on s'y emmerde. Voilà, bon, ces passages-là que je trouve incroyables sur la poésie qui serait une forme de vérité par l'insulte, en fait, qui illumine la colère. Voilà.
Ça résonne chez vous. Charles Penquin, vous signez Père Ancien chez POL, qui est un recueil, une collecte, un point, je ne sais pas comment l'appeler. 18 poèmes ou séquences cueillis dans les 25 dernières années, ou plutôt 16 poèmes encadrés par deux poèmes. Le premier, de 96, titré « Le Père ce matin », et puis un autre titré « Père Ancien », écrit en 2019. Le premier poème « Père ce matin » commence comme ça. « Père Ancien s'allie, me berce le corps, gris lait la nuit, poisse son temps, à descendre pour aller pisser. Enfin, père imberbe, nuit debout un bois, l'habite en berne, et le chat seul usera les mains. » Des vers courts, avec de la coupe, ces vers sèches, hein, des torsions, des répétitions, des boucles. Et puis le second, le dernier poème, qui est le poème le plus récent, qui s'appelle « Père ancien », qui est écrit en 2019, qui lui est beaucoup plus dense, compact, qui allonge, qui resserre même les vers, enfin qui les allonge et les resserre en même temps, et qui prend largement la page. Qu'est-ce qui se joue entre ces deux texte-là, qui ouvre et ferme le recueil?
Charles Penquin. En fait, pour dire, je dirais que le père ce matin, c'est vraiment l'ensemble de poèmes c'est le premier poème que j'écris vraiment un peu plus personnel, parce qu'avant j'étais quand même assez marqué par la revue TXT, par Novarina, etc. Et puis là, je trouve plus ou moins ma voix avec ce texte-là qui parle du père, peut-être par rapport à son absence justement, il était décédé quelque temps avant, et donc du coup, voilà, il y avait une sorte de rapport avec lui, mais autrement, avec l'écriture. Et puis là, je suis revenu à ces textes-là, et j'ai continué avec Père Ancien, mais avec d'autres choses qui sont arrivées dans ma vie, comme le décès de ma mère. Donc j'y ajoute aussi la mère dans Père Ancien. À la fin, c'est plus la visite des souvenirs de la maison familiale, maison de mon enfance, voilà. Et donc j'écris à propos de cette visite là du père chez le père et la mère, en fait. Visite familiale à travers ces poèmes qui reprennent un peu les rythmes et les allongent et en même temps resserrent des choses, parce que c'est comme des bribes de souvenirs, comme des choses qu'on trouve en fouillant la terre, en fouillant les lieux, voilà.
Est-ce que vous pourriez, Charles Penquin, peut-être nous lire la première strophe, la première page de Père Ancien?
Oui.
Ah, merci beaucoup.
Le père ancien qui perle en moi, le père en moi, la mer serine la plaine, et le terreau tout blanc du corps taiseux. De père à moi, la mer qui plaint, le peu de poids en dedans d'elle ça parle, le plein de mer en terre de bouche, et la pliure de nos rideaux sur l'horizon. Comme une peinture de porte, le père à poil, cachant son grand séquin, la pomme, de vieilles baignoires du bleu qui penche à la pensée pleine d'odeur, avec le père au loin et son toubac qui monte au gris des plaintes, de bois repeint d'ourlet volant, les velours, lourd mon œil au-dessus des plantes, la lune entre les pins, le père en maillot de corps derrière, sa verte brouette brouillerie, la bête sur les pans de murs, les plans des pentes, au cordeau rembobiné, le linge pendu, volant, le temps qui reste en moi, comme un grenier, mais encore quoi y voir dans toutes ces modes de terre-là.
Merci. Charles Penquin, tout à l'heure, juste avant la lecture, vous évoquiez, enfin vous expliquiez en tout cas, que d'une certaine façon, vous aviez trouvé votre voie à l'absence du père, ou par l'absence du père, je ne sais pas comment il faut, comment il faut l'entendre. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, c'est de là que vous écrivez, en tout cas de ce silence-là, que vous avez commencé à écrire, soit de ce manque, soit de ce manque de la langue d'ailleurs du père aussi, parce que vous expliquez bien que la communication
était... J'ai toujours un peu écrit, mais bon, c'était là de trouver sa façon de parler, en fait, dans ce rapport où j'ai eu un très peu de rapport. Enfin, avec mon père, il y avait une difficulté dans le rapport de la parole. Et quand j'étais enfant, je comprenais pas ce que mon père disait. J'étais plutôt dans un milieu féminin, avec ma mère, ma tante, ma sœur, etc. Et puis le père qui était toujours un peu éloigné, qui parlait, qui rentrait dans des discussions, qui n'avait plus cours, etc. Et c'est bien après que j'ai compris cette manière de fonctionner qu'il pouvait avoir, moi-même en écrivant, en fait, en ayant comme ça un rapport à la parole, à l'échange d'une manière autre, totalement autre, par la poésie. Poésie qui a un langage... On utilise le langage, mais pas forcément pour avoir des rapports, pas forcément pour rentrer dans des discussions à brûle pour point.
Ça veut dire, Charles Penquin, que la question de la poésie ne s'est pas posée. Il n'y avait pas d'autre écriture possible pour vous, d'emblée?
Je sais pas. Je pense que la poésie, j'ai toujours compris la poésie assez rapidement. En fait, ça m'a toujours... paru assez clair, comme je disais, comme Artaud, là, par exemple, c'était quelque chose qui tout de suite me parlait vraiment. Voilà, donc l'écriture, après le père ancien, bon, bah, c'est venu comme ça, d'un coup, ça s'est fait en très peu de temps, j'ai écrit ce texte-là. J'ai eu peut-être plus de difficultés pour écrire le père ancien à la fin, là. Il fallait écrire, et puis après, couper des choses... ce soit un peu comme ça, comme une matière, voilà.
Vous écrivez en coupant, mais... en creusant?
Bah, pour ça, oui, plutôt. Oui, pour les poèmes qu'il y a dans tout ce recueil, oui. Je pense que c'est plutôt... Par exemple, il y a des textes... je me souviens qu'il y avait des textes sur... voilà, sur les animaux, etc. Et c'était des proses.
Ah, je crois que je vous ai perdu. Je crois qu'on n'entend plus Charles Penquin, qu'on va essayer de joindre par téléphone. On l'a retrouvé? Charles Penquin, vous m'entendez?
Allô?
Oui, vous êtes revenu. C'est une bien bonne nouvelle.
Oui, je vous entends, oui.
Oui, je vous entends. Je vous entends. Je voulais peut-être revenir sur ces deux poèmes qui encadrent le recueil Père Ancien. Le tout premier, que je citais au début, vous l'adressez à Christian Prigent, alors que le dernier dont on parlait à l'instant, vous ne l'adressez à personne, hein, si ce n'est peut-être à vous-même, Christian Prigent, que vous contactez quand vous commencez véritablement. Alors vous dites que vous avez toujours écrit, mais quand vous commencez à écrire de façon, disons, plus sérieuse, vous allez vous adresser à Christian Prigent, correspondre avec lui dans un premier temps. C'est même par lui que vous allez publier ce premier poème qui ouvre le recueil. Hein. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher chez lui? Pourquoi vous adressez à lui pour commencer? Charles Penquin.
En fait, c'est le premier poète contemporain, le premier poète vivant que je découvre, en fait, véritablement. Enfin, premier grand poète, j'ai l'impression, voilà. Et qui, en fait, j'ai aussi manqué le rendez-vous parce qu'il devait présenter son livre à l'époque, en 92, Ce qui merde, et il n'était pas venu pour le présenter, mais du coup, j'ai cherché dans le Minitel, je suis tombé sur une revue, Action Poétique, qui avait un discours assez politique, qui m'intéressait. J'ai reçu le numéro de cette revue, je crois que c'était le numéro 123, et dedans il y avait tout un dossier sur Christian Prigent, où là il évoquait plein d'écrivains, de poètes et même des peintres. Donc c'était une véritable découverte, et en même temps j'étais complètement déstabilisé. Après je lisais en même temps Cadio, Luco, Novarina, Verheyen, voilà, donc plein d'auteurs qu'il citait. Et puis je lui ai écrit en lui disant qu'en fait je n'arrivais plus à écrire vraiment, parce que moi j'étais encore assez marqué par exemple Rimbaud, mais Michaud aussi, mais j'étais quand même assez éloigné, déstabilisé. Et puis sa réponse a été... réponse qui m'a marqué. Il m'avait dit c'est pas grave, on peut quand même continuer à parler. Voilà. Et après, on a eu un échange comme ça. Très peu d'échanges en fait, parce que j'ai été muté dans la ville où il habitait, et c'est là qu'on s'est rencontrés.
C'était gendarme.
Un hasard extraordinaire. Voilà.
Quand vous dites déstabiliser, ça veut dire qu'est-ce que ça venait déplacer dans votre idée que vous faisiez de la poésie, Charles Penquin?
Oh ben là, c'était j'étais marqué par le surréalisme, par Marcel Duchamp, par les aphorismes de Lichtenberg, tout ça. Mais là, ça donnait un coup de neuf à la poésie. J'imaginais pas qu'on pouvait écrire comme ça, en fait.
C'est quoi comme ça?
Je découvrais, par exemple, sa poésie dans Peep Show, ses fictions, poèmes, ou dans ses cassettes, par exemple, la cassette. Mémoire de le vide, où il y a une rapidité, une façon de lire en retenant le souffle, quelque chose qui est très lié au sexe aussi. Là, le sexe, j'imaginais pas que ça pouvait paraître dans la poésie, de maintenir aussi brutal, presque quasi pornographique. Là aussi, au même moment, je découvrais Guyotat, voilà. Donc c'est tout ça qui... Moi, j'avançais, j'avais l'impression d'avancer chez moi, d'avoir ces livres-là qui étaient comme des sortes de poteaux, en fait, d'impossibilité de lâcher ces livres et en même temps de les reprendre, de ne pas savoir quoi en faire. En fait, je ne savais pas ce que c'était que ces objets poétiques. Est-ce que c'était la poésie, pas... En tout cas, c'était là-dedans qu'il fallait aller, dans quelque chose qui... Donc, on peut dire que c'est la poésie, mais en même temps, ça peut être avec de la prose. Et puis à ce moment-là, à l'époque où je découvre tout ça, Novarina, il est dans le théâtre... Cadio, c'était un livre que j'avais trouvé, c'était dans les opéras. Voilà, et Prigent, il était dans la fiction, enfin, il n'y avait rien dans la poésie, en fait, dans le où j'allais à la médiathèque, à Corbeil-Essonne, dans le rayon poésie, il n'y avait rien de ces poètes-là, en fait. C'est ça qui était incroyable aussi.
Vous parliez de rapidité à propos de ce que vous aviez découvert chez Christian Prégent. Peut-être il faudrait évoquer une presque constante chez vous, Charles Penquin, c'est l'absence de ponctuation, à quelques exceptions près dans le recueil. Hein. J'ai quand même repéré quelques points. Le dernier poème, en tout cas, oui. Sans ponctuation ni majuscule. Hein, c'est comme si le vers, même tordu, filait tout droit, égalitaire d'une certaine façon. C'est une histoire de vitesse hein, que d'en finir avec la ponctuation.
Ça dépend. En fait, là, c'est, disons que c'est rythmé autrement parce que c'est le poème, c'est en vers. Donc, en fait, avec le vers, on peut quand même respirer. Il y a une forme de ponctuation autre quoi, qui se fait dans la coupure. C'est la coupure qui est intéressante, je trouve. Et puis, dans certains poèmes, c'était vraiment... Comment lâcher la phrase finale, le vers final qui d'un seul coup coupe quelque chose, comme si on partait quelque part et qui d'un seul coup ça s'arrête comme ça brutalement en fait. C'est plus des histoires de d'arrêt plus que de d'en avant, d'aller de partir comme ça dans les trucs sans ponctuation. C'est plutôt des rythmes qui sont plus à chercher l'arrêt en fait, je trouve. Dans le père ce matin, Père Ancien.
Dans Père Ancien, oui, plutôt. La coupe, en tout cas, dans Père ce oui. matin et l'arrêt dans oui, oui. Père Ancien. Il y a aussi des gestes de compression. Je pense par exemple à Bibine, hein, qu'on pourrait peut-être oui. presque lire comme une sorte de compression d'adolescence. On parlait de vitesse, hein, oui. qui pourrait donner une impression de surface, et pourtant c'est tout le contraire. Vous écrivez dans un autre poème, Charles Penquin, « Je suis un trou, je suis un trou avec du drame dedans ». Ça c'est dans le poème Pama, si je me souviens bien. Et puis je pense aussi à oui, Bobine, tout à fait, hein, oui. dans lequel revient sans cesse le trou, creusé, perforé, percé. Écrire, c'est quelque chose comme ça,
ah oui.
c'est creuser. Parce que ce trou, c'est quand même toute une affaire chez vous, Charles Penquin.
Oui, bah c'est des sortes de sillons, en fait, je dirais. J'avais comme ça, plus jeune, des images mentales, en fait, de l'écriture chez Céline ou chez Beckett, comme s'il y avait quelque chose de noir au milieu, et puis ça traçait autour des sillons continuels, comme ça. C'était des images mentales que j'avais de l'écriture. Et chez Beckett... Chez Beckett, c'était une sorte de... C'était la ponctuation, le point, comme... comme une sorte de trou, oui, comme ça, un truc respiré, en fait, entre les phrases. Ça m'avait marqué, Beckett par la suite. En fait, j'avais connu Beckett avant, connaître Christian Prigent, texte et tout ça. J'avais beaucoup, j'ai été marqué, puis après je l'avais oublié. Et après, je suis revenu à Beckett autrement. Bon, après, c'est la suite, c'est-à-dire dedans, en 99, qui est un livre où il y a quelque chose. On y sent la lecture de Beckett, de l'innommable, où j'y sentais comme ça, comme un effet bulldozer, en fait, avec cette ponctuation, comme un trou respiré, en fait. Voilà.
Alors, oui, alors respirer, il faut peut-être rappeler, Charles Penquin, que la poésie chez vous, ça se dit, ça se met debout, en tout cas, ça se met sur scène aussi, pas seulement, mais ça se met aussi sur scène, parfois dans la rue, dans un métro, sur une route, dans une voiture, enregistré sur un téléphone, sur un répondeur. On parlait de la voix, hein, de la scansion d'Artaud tout à l'heure. Et vous avez demandé à entendre une autre voix, et c'est celle-ci.
Mantra des trois petits chats. Passepartout numéro 6. Avec la participation de Nathalie, d'Emmanuel et de Babar.
Bon.
Alors, ce qu'on entend, c'est un montage, mixage, feuilletage des voix des trois enfants de Bernard Heitzig, hein, chantant Trois petits chats. J'imagine que tout le monde l'a reconnu. C'est une archive que vous nous avez envoyée, que vous nous avez donnée. Est-ce que c'est Heitzig qui vous a appris l'importance de la voix, Charles Penquin?
Oui, Bernard Heitzig. Ça a fait la même chose, Christian Prigent, par rapport au Le Père ce matin. Et puis, dans le même moment, j'écrivais un texte que je lis toujours aujourd'hui. Et j'avais fait une cassette, on faisait des cassettes à l'époque avec Christian Prigent, de sa collection Artalect. Et j'avais fait une cassette où, dedans, je faisais un peu du Heitzig, un peu du Novarina, après du Prigent, etc. Et puis, à la fin, j'avais, dans cette bande-là, je lui avais dit, à la fin, il y a un petit passage où je parle, on s'éteint, on s'allume. C'est un texte que j'ai gardé après pour dedans, puis que je fais toujours en performance avec Jean-François Pauvros quand on fait des concerts. Et j'avais très honte. Je lui ai dit, écoutez, il faudra passer très très rapidement sur ce morceau-là. Hein. Et il m'avait dit, mais au contraire, c'est le seul morceau qui vous ressemble vraiment, en fait. Et donc, Heitzig, voilà, c'était son regard à lui. J'ai commencé des lectures au tout début avec Christian Prigent et Bernard Heitzig. Donc, très vite, j'ai progressé comme ça dans la performance jusqu'à écrire des textes qui étaient, que je trouvais qu'ils étaient plus dans ma bouche que dans la tête, en fait. Ils arrivaient directement dans la bouche.
Charles Penquin, je suis désolée, c'est la fin de cette émission, donc c'est sur, sur le souvenir des cassettes et du Minitel qu'on va s'arrêter. Merci à tous les deux, Charles Penquin, Jérôme Prieur, aujourd'hui à la technique Déborah Dagobert, à la préparation Thierry Beauchamp et à la réalisation François Connac. Vous pouvez réécouter et partager cette émission sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France. On se retrouve dans 15 jours, même heure, même endroit. Bon après-midi à toutes et à tous.